Amen. Alléluia. Quels sont ceux qui savent? Parce qu'ils ont compris par la révélation de l'Esprit, de Dieu dans leur esprit, que leur lendemain est assuré. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as rien à craindre. Quel que soit ce qui arrive, tu n'as rien à craindre. Ta vie a été programmée. Les incidents qui se produisent ont déjà été préarrangés. C'est une vie qui se joue en différé. C'est un film en différé. Amen. On sait exactement ce que sera la fin. Et à la fin, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alors, prends ta Bible avec moi ce matin. Nous allons passer un merveilleux moment dans l'enseignement de sa parole. Je vais enseigner ce matin. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 4, versets 17 à 31. Et pendant que le don de l'enseignement sera manifeste, vous allez distinguer aussi le don de l'exhortation. Pendant l'enseignement de ce matin, juste parce que le ciel a décidé de te faire du bien, de t'instruire, de t'affranchir, de te combler et de te lever, afin que tu puisses régner sur la terre comme les desseins de Dieu l'ont déjà préétabli. Alléluia. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4, vous y êtes? Allons-y ensemble, versets 17 à 31. Élevez vos voix, faites entendre la parole de Dieu dans l'atmosphère de cet endroit. On y va ensemble. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils enlèvent ces anges obscurcis, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'anissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. À vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, car celui qui dérobait, qui ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que votre toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, tout espèce de méchanceté disparaisse du milieu de nous. Que quelqu'un dise Amen.
Amen.
Dis encore qu'il en soit ainsi dans ma vie.
Car je décide,
au fond de mon âme,
de
revêtir
l'homme nouveau
et de marcher
sur la terre
selon les desseins
arrêtés
par le conseil de Dieu
à mon égard.
Le triomphe,
la
victoire,
la
gloire,
la santé,
la
prospérité,
la richesse,
la louange
sans mon partage
en lui,
au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Et amen.
Tu peux t'asseoir.
Acclame
le Seigneur pour ta propre vie. S'il te plaît, si tu veux, acclame le Seigneur, acclame le bien.
Amen.
Alors, nous sommes au quatrième enseignement sur la série « La rééducation de l'homme intérieur ». Je crois qu'à cette étape, nous avons tous compris que la partie visible de notre être appelé corps n'est qu'une maison, une tente, une demeure, un temple dans lequel le vrai nous habite. Donc notre partie visible n'est pas le vrai nous. Le vrai nous est à l'intérieur de ce qu'on peut voir. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Car nous sommes en esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Répète après moi, je suis en esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. En tes propres mots, vous voyez, le but de cet enseignement, ce n'est pas de produire de l'excitation, mais de déclencher l'instruction qui est indispensable à ton ascension et à la manifestation du règne au travers de ta vie. Nous avons vu quelque chose de très très important. Je vais revenir dessus en peu de mots. Nous avions défini le péché comme étant la puissance qui nous pousse au mal. Donc le péché n'est pas simplement l'acte que nous posons, mais plus loin, c'est la puissance qui nous pousse à agir selon le mal. Donc, c'est ça, le péché. Et le vieil homme est la partie immatérielle de nous que nous avons hérité d'Adam. Vous vous rappelez que Adam et Ève ont péché. Et donc, comme ils ont péché selon Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire. Donc, la déchéance de cette gloire a engendré le vieil homme qui lui a été déchu et sur lequel se rattache toute forme de malédiction adressée par la parole que Dieu avait expressément dite à Ève et à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. D'accord? Donc le vieil homme, c'est cette partie immatérielle que nous héritons d'Adam. C'est pourquoi nous n'enseignons pas à nos enfants à mentir, mais ils mentent. On n'enseigne pas à nos enfants à voler, mais ils volent. À se masturber, mais ils se masturbent. À chercher les femmes, mais ils en cherchent. Simplement parce qu'ils ont hérité cela de nous. Cet être immatériel réside à l'intérieur de nous. Et même d'ailleurs, nous pouvons parler de sa présence dans notre sang. Car l'âme de la chair est dans son sang. Donc la vie d'une chair se trouve dans son sang. Mais, d'accord, l'homme immatériel, le vieil homme, prend sa force, d'accord, sa puits. Maintenant, sur le corps du péché, afin que le corps du péché puisse exécuter ses actions, ses pensées et ses résolutions. Ça, c'est le vieil homme. Maintenant, la Bible dit expressément dans Éphésiens 4, au verset 23, que Dieu nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui croit qu'il est, il est une nouvelle personne en Christ? Lève ta main. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, alléluia, tu l'es, c'est bien. Mais il faut que tu manifestes la vie de cet homme nouveau. Créé à l'image de Dieu. Donc ça, ce processus est appelé le revêtement, d'accord, de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Nous passons beaucoup notre temps à accuser les actions du vieil homme, ce qu'il a fait, les malédictions rattachées à sa personne, ses œuvres. D'accord, nous les condamnons, mais nous n'enseignons pas aux gens comment revêtir l'homme nouveau pour être à même de triompher des actions du vieil homme. Car nous avons appris que si nous attaquons au péché, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Si on s'attaque à notre corps, on ne peut pas avoir la victoire. Il faut s'attaquer au vieil homme afin qu'il reste crucifié à la croix, n'est-ce pas? Là où Jésus a été crucifié avec lui. Est-ce que ça va? Et nous avons vu que c'était un acte de foi, d'accord? Un acte de foi. Lève ta main droite et dis, je reconnais que le vieil homme a été crucifié. Qu'il ait été crucifié avec Christ à la croix. Et c'est pourquoi je m'engage à vivre dans une dimension nouvelle et à révéler l'homme nouveau en le revêtant. Alléluia. Vous voyez, dans la Bible, il dit d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sauvé, eh bien, il est important de comprendre ceci. Quand je suis sauvé, mon esprit, nous avons vu que l'homme est ton esprit, mon esprit est régénéré. Parce que le péché a séparé mon esprit avec l'esprit de Dieu. Ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, mon âme, le siège de mes décisions, de ma volonté, de mes pensées, doit subir le processus de renouvellement. D'accord? Il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la quantité de paroles que je vais recevoir de Dieu par mon esprit et qui va jaillir au niveau de l'âme pour changer mon raisonnement et mon système de pensée ancien permettra à mon âme maintenant d'épouser le plein salut que j'ai reçu au niveau de mon esprit. D'accord? Donc, cette action, le croyant s'engage volontairement à ce processus. C'est là où le croyant paye le prix. D'accord? Et un prix à payer pour chacun d'entre nous. C'est un processus graduel. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, dira, dans Romains 12, verset 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, j'ajouterai, et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit quoi? Offrez vos corps. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un d'entre vous est arrivé un jour ici et a déposé son corps dans le panier? Est-ce que quelqu'un a donné son corps comme offrande à Dieu ici à l'église? Donc vous voyez, il ne s'agit pas de se déposer dans le panier d'une église, mais de s'offrir comme un sacrifice vivant 24 heures sur 24 pour manifester au travers de nos corps la gloire qui est rattachée à notre être par la résurrection de Christ. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, comment est-ce que cela est possible? Est-ce que c'est possible quand on me dit ne pêche pas, ne mens pas, ne vole pas, ne fais pas ci? Non. Comment cela est possible? Vous voyez, le verset 2 l'explique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un enfant de Dieu qui est conforme au monde est simplement une ignominie pour le royaume. Je vous garantis, vous voyez, un enfant de Dieu est supposé ne pas être conforme à ce siècle. Dans son système de pensée, dans sa manière d'agir, même dans sa manière de se vêtir et dans sa manière d'utiliser l'argent, un enfant de Dieu démontre qu'il n'est pas de ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quels sont ceux qui croient qu'ils ne sont pas du monde? Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Vous n'êtes pas du monde. Est-ce que ça va? Mais nous sommes dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on fait office d'ambassadeur de Dieu. Donc si on est ambassadeur de Dieu, on doit démontrer d'abord, un, le système de pensée de Dieu, les valeurs du royaume et le caractère de Dieu sur la terre des hommes. Donc les hommes doivent voir Dieu au travers de nous, partout où nous sommes. Dans nos bureaux, dans nos maisons, dans notre travail, dans la rue, dans nos quartiers, avec nos amis d'enfance, avec nos copains de bas âge, nous devons être des ambassadeurs de Dieu. Ça veut dire que si je suis avec mes amis, que j'ai connu avant, et que nous sommes ensemble, nous avons les mêmes causeries, nous avons la même manière de rire, on se tape la main de la même manière, alors que je suis né de nouveau, il y a un sérieux problème. C'est pour ça que Psaume 1 dit de ne pas s'asseoir en compagnie de moqueurs. On n'est pas né de nouveau pour garder les anciennes camaraderies. On est né de nouveau pour les influencer, pour pousser ces personnes à connaître Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Le manque d'amen est un indicateur que la parole est en train de remettre en cause certaines pratiques que tu as. Donc, c'est pas grave. Hein? Est-ce que ça va? Donc, on doit être transformé. Dis à ton voisin, je dois être transformé. Et tu dois être transformé. Vous voyez, le mot transformé vient d'un mot grec, métamorphoio. Métamorphoio. Vous voyez? Donc, on doit être métamorphoio. D'accord? Qui veut dire changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. Ça s'écrit M-E-T-A-M-O-R-P-H-2-O. D'accord? Donc, changer dans une autre forme. Est-ce que ça va? Tu dois changer dans une autre forme. Tu dois être transformé. Et cette transformation est semblable à une métamorphose. À une métamorphose. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi bien. Voyez, quand vous naissez de nouveau, les gens vous regardent. Hein? Vous avez gardé la même carte d'identité. Vous avez le même nom. Vous habitez probablement la même maison, physiquement parlant. Ou même la même maison, spirituellement parlant. Mais quelque chose a changé profondément. Mais ce processus, la révélation des œuvres incroyables de Dieu ne se fait pas automatiquement le même jour. Dans votre cœur, vous savez que quelque chose s'est passé. Mais quand les gens vous regardent, ils ont de la peine à croire. Mais Pourquoi? Parce que vous venez d'expérimenter le salut. Le salut n'est pas suffisant pour montrer la gloire de Dieu. Celui qui est sauvé a déclenché la métanoïa. La métanoïa, c'est le changement, vous voyez, de direction, de mentalité. Je décide, parce que j'ai du regret, de me détourner de ma vie de péché et d'embrasser la vie éternelle. Vous voyez, ça c'est le métanoïa. Donc je suis sauvé. Ne vous trompez pas, bien-aimés, suivez-moi. Là, on va aller profondément. Tous ceux qui sont sortis d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Métanoïa, sortir, traverser la mer Rouge, métamorphoïo, entrer à Canaan. Moïse est le prophète qui a provoqué le métanoïa, si on veut transposer. Josué a déclenché le processus de métamorphoïo. Donc il y a des gens qui vous amènent au salut, mais qui n'ont pas la capacité de vous porter à la terre promise. Ils ne peuvent pas vous amener à la terre promise. Ils n'en ont pas les capacités. Seuls les gens capables de changer radicalement ton système de pensée sont capables de t'amener là où le ciel t'attend. Est-ce que ça va? Alors si vous restez avec un prophète de la dimension de Moïse, dans le Nouveau Testament, il dira, tu es bon, alléluia, tu es à la tête, tu es là-haut, tu es tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il sait. Il t'a sorti du métanoïa. Mais tu ne peux pas rester métanoïa toute ta vie. Il faut métamorphoïo. Est-ce que vous me comprenez? La conversion doit s'établir. Est-ce que ça va? Il faut être converti. De façon que quand on te regarde, on a l'impression qu'on a vu Jésus. Quand on te regarde marcher, on dit, waouh, c'est plus la même personne. Je vous dis une chose. Quand votre âme est changée, vous devenez radicalement différent. La différence se produit dans votre âme. Vous voyez, regardez bien, regardez. Certains d'entre nous, dans certaines églises, quand on va à l'église, on va parce qu'on chante bien, on danse bien. Le pasteur prêche bien, il est éloquent. C'est fabuleux. Donc, on change de vêtements. Et on commence à s'appeler chrétien. Tout le monde a dit on est chrétien. Mais à l'intérieur de nous, notre nature n'a pas changé. C'est comme le serpent qui change de peau. Il a mieux, mais il n'a pas changé. Il a laissé l'ancienne peau pour porter une nouvelle. Donc c'est un changement extérieur. D'accord? Le changement extérieur est purement religieux. Alors que le changement intérieur est profondément divin. Quand Dieu entre dans ta vie, il commence le travail de l'intérieur pour attaquer l'extérieur. Mais quand le diable vient, il passe par l'extérieur pour prendre l'intérieur. Alors que Dieu commande de l'intérieur pour jaillir vers l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est un travail extrêmement précis et profond que Dieu fait. Donc quand le processus du métamorphoïo se produit, tu ressembles à une chenille qui était en train de marcher sur le tronc d'arbre et qui soudainement, par la puissance de la métamorphose, la chenille change, prend des ailes et commence à voler comme un papillon. C'est la même personne, mais ce n'est plus la même identité, parce qu'on n'appelle plus chenille, mais on l'appelle papillon. Je déclare sur ta vie, t'as compris? T'as bien compris de quoi je parle? Amen! On ne dira plus la pécheresse, on ne dira plus le voleur, on ne dira plus la menteuse, on ne dira plus ceci. Pourquoi? Parce que tu as métamorphoïo, un changement radical de l'intérieur. Mais bien aimé, ça ne se fait pas simplement parce que tu as dit Amen. Ça se fait parce que tu as décidé de porter ta croix et de suivre le Seigneur. Donc quand on parle de métamorphoïo, on parle là de quelqu'un qui arrive à l'état de la transfiguration. C'est-à-dire, tu es tellement transformé que l'éclat de ton âme commence à rayonner comme le soleil. Comme Jésus fut transfiguré à la montagne de la transfiguration. Il était là avec ses disciples. Et soudainement, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Pourquoi ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse? Parce qu'il y a eu une transfiguration. Quand tu arrives dans cette dimension, alors tu comprends pourquoi Jésus dit, vous êtes assis avec moi dans les lieux célestes. C'est une autre dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une autre dimension. Les sorciers qui nous ont souvent rendu visite, vous rendront témoignage que quand ils arrivent ici, ils voient une boule de feu. Pas possible de toucher. Souvent, ils ont fait des conspirations secrètes. Vous voyez, disant on va atteindre ce gars, mais ils perdent leur temps. C'est même pas possible. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Vous comprenez? Parce que l'aide, ce que tu vois, c'est le feu. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois l'éclat qui se dégage de toi, c'est dangereux. Regardez bien. Les gens que vous croisez dans la rue, vous les saluez, ils ne veulent pas affronter vos regards. Ils sont suspects. Parce que vous dégagez une lumière. Il y a quelque chose qui jaillit de vous. Donc, ils vous voient tout de suite, ils ont envie de fuir. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Vous êtes dans le couloir, on dit, on va présenter tel monsieur. Mais lui fuit. Il commence à être nerveux. Il te voit, il est énervé. C'est un conflit qui se passe. Tu dégages et tu transportes une armée invisible à tes côtés. Donc, quand il te voit, il panique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de toi. D'accord? Et nous grandissons dans la révélation de la gloire au travers de nos vies. Nous n'avons pas la même dimension d'aura, d'impact, d'influence dans la sphère spirituelle. Alors, pour avoir de l'influence dans la sphère spirituelle, il est important de transformer radicalement son système de pensée. C'est un processus extrêmement douloureux, mais très, très agréable pour le croyant. Laissez-moi vous expliquer ceci. Métamorphoio et métanoïa vont ensemble. Métanoïa, c'est-à-dire la repentance, est ce qui nous donne d'avoir accès au royaume. Et la repentance est le même processus par lequel nous croissons dans le royaume. Ça veut dire que je ne passe pas d'une étape à une autre dans le royaume sans m'être repenti. Sans repentance, il n'y a pas de croissance. Donc pour croître, il faut que je puisse me repentir. Je m'explique. Vous voyez, la loi nous dit, tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne feras pas de représentation d'aller devant ta face. Ça, c'est la loi. Mais Jésus dit, c'est bien la loi. Parfait. Mais moi, je vous dis, que si quelqu'un même regarde une femme dans l'intention de la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc il ne s'attarde plus simplement à l'action, mais il part dans la source de l'action. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant nous avons vu que quand nous revêtons l'homme nouveau, quand la puissance du péché s'exerce, notre homme nouveau a la force de pouvoir résister et de terrasser la puissance du péché. Maintenant, il y a une autre manière de pécher qui est plus subtile. C'est-à-dire, ton vieil homme a tellement corrompu ton âme que même crucifié à la croix, il a programmé ton âme à faire du mal. Ton âme est programmée au mal. Donc même si le diable n'est pas là, on a déjà programmé ton âme à agir d'une certaine façon. Tu es impulsif, tu es colérique, tu as une manière de faire, tu as une façon de faire. Ton âme est programmée. Et même programmé à l'infidélité, programmé à la déloyauté, il y a une programmation de l'âme. Une influence culturelle, une influence d'éducation dans ton âme. Maintenant, tu dois prendre toi-même le soin de confronter la parole de Dieu à ton système de pensée. Ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est toi qui le fais. Quand il y a fait des générations dans ton village, et que tout le monde se lève pour partir, et qu'on t'appelle pour dire, oh, tu as été élevé, tu es le dicable de la région. Tu es le ministre de la région. Tu es telle personne, telle dignité de la région. Il faut que tu viennes. On a besoin de tes offrandes. On a besoin de ta collaboration. Et tu sais que c'est une adoration satanique. Comment est-ce que tu réagis? C'est là qu'on voit si oui ou non, ton âme a été changée. Est-ce que tu payes le prix pour la vérité? Ou alors tu compromets pour ta sécurité? Oui. C'est là où la vraie marche avec Dieu commence. D'accord? Bon. Alors s'il m'arrive, je veux dire à chacun d'entre nous, de commettre un péché. À partir de ce moment, la Bible dit, nous avons pour avocat Jésus-Christ le juste. Et souvent, nous péchons sans réaliser même que nous sommes dans le péché. Et c'est quand nous découvrons la vérité que nous arrivons à une autre dimension de consécration. Saint apôtre Paul dit, ce qui hier était pour moi comme un gain, je considère aujourd'hui comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Plus je connais Dieu, mieux je suis consacré à Dieu et mieux je me répands des actes qui hier étaient acceptés par Dieu, mais qui ne sont plus acceptés parce que je connais la vérité. D'accord? Il peut arriver, Franck, que dans ta consécration personnelle, Dieu te dise, ne regarde pas la télé pendant un mois. C'est une instruction du Saint-Esprit. Si tu ne le fais pas, d'accord, tu regardes la télé pendant ce mois, Tout le monde te regardera pour dire, oh, c'est un pasteur correct. Il fait la volonté de Dieu. Mais Dieu dira, c'est un ignoble pécheur. Parce qu'il n'a pas suivi l'instruction de mon esprit. Donc le péché n'est plus simplement la mauvaise chose que je fais, mais c'est aussi la bonne chose que je ne fais pas. D'accord? Donc c'est plus simplement la mauvaise chose. La loi nous arrête à la mauvaise chose. Oh, il a fait ci. Oh, il a fait ça. Oh, il a fait ci. Mais dans la justice divine, le péché devient aussi la bonne chose que je n'ai pas fait. Ça veut dire que si je suis assis, et pendant que le révérend parle, je te mets à cœur, plante cette semence dans sa vie. Plante telle semence dans la vie de telle personne. Et que tu ne le fais pas, tu es un pécheur aux yeux de Dieu. Et peut-être aux yeux des hommes, tu es une personne correcte. Donc l'instruction à laquelle tu n'as pas obéi devient une rébellion à la voix de Dieu. Donc tout dépend de la dimension. C'est dans ce sens que 1 Jean 2,8 dira, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous doit prendre garde. Au-delà du fait que je ne fais plus de mal, je dois prendre garde à ma consécration personnelle de tous les jours. Est-ce que ça va? Alors si j'ai péché, je demande pardon à Dieu. Et si j'ai demandé pardon à Dieu, je crois que Dieu m'a pardonné. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sont paralysés dans leur homme intérieur à cause de la culpabilité. Oh, dis culpabilité, va-t'en. S'il te plaît, dis-le avec assurance. Culpabilité, va-t'en. Je détruis ton influence sur ma vie, dis-le. Car Jésus m'a libéré et son sang m'a pardonné. Maintenant, suivez-moi, je n'avais pas à le dire, ce culte. Regardez. Viens. Regardez. Vous voyez? Disons qu'il marche et puis il tombe. Tombe. D'accord. Il est tombé. Tombe bien. D'accord? Regardez. Si il est nouveau converti, il prendra peut-être un mois. Quand il a demandé pardon, Dieu l'a pardonné. Il prendra un mois à se relever. Donc, si vous lui demandez de faire quelque chose demain, il va dire, non, je suis tombé. Il va tellement pleurer sur ses péchés que finalement, il reviendra à la loi pour rechercher une justification personnelle. Comme si par ses efforts, il devra accomplir la justice. Mais celui qui a la foi en Jésus reconnaît que Jésus a déjà payé le prix. Suivez-moi bien. Dès qu'il tombe, à l'instant T, il dit, Seigneur, je me répands, je te demande pardon. Et puis, au même moment, le ciel le relève. Il est déjà debout la seconde d'après. Mais toi qui es en face, tu dis, oh, il est tombé, oh, il a fait ci. Mais le ciel dit, il est debout. Tu commences à t'attaquer à une position de juste et tu commences à juger une personne qui a déjà été rachetée. Vous comprenez? Donc, tu commences à juger quelqu'un de racheté. Et c'est là où le piège est tendu sur beaucoup de personnes. Donc, si, pourquoi tu es pressé au jeune homme? Alors, si, d'accord, je suis tombé, d'accord? Plus je suis mature, plus je me relève rapidement. Et la foi, c'est quoi? Je crois que quand je demande pardon, il m'a pardonné. Numéro 1. Et de 2, il m'a purifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes que j'ai posés à ses yeux sont effacés et n'existent plus. Maintenant, ça continue d'exister dans sa petite tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Monsieur le gars vient te dire, oh, tu vas entendre aussi. Oh, on va prier. Je ne t'écoute pas. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé, jeune homme, tu ne peux pas prier. Donc, il passe son temps à pleurer. Pourquoi? Parce que dans son orgueil personnel, le diable profite du ressentiment qu'il a eu et l'entretient dans le remords pendant peut-être d'autres, ça fait même un an, il ne se relève plus. Pourquoi? La culpabilité. Donc, quand ton homme intérieur a compris le mécanisme de la rédemption. Et c'est pour ça que Jésus, il dit en jouant, c'est pas moi qui le dis, il dit, Pierre lui dit, mais dans ce cas-là, combien de fois doit-on pardonner un homme par jour? Qu'est-ce que Jésus dit? 77 fois? Fois 7 minutes, ça fait combien? Multi-calcul rapide. 7 fois 7? Et 7 fois 7? Quand vous additionnez, ça fait combien? 500 combien? 39 ou combien? Trouvez rapidement. 539. J'étais toujours champion au calcul rapide à l'école primaire. 539. Vous savez, quand vous calculez, plus vous calculez rapidement, mieux vous gagnez de l'argent. Donc, vous voyez, parce que l'argent, c'est les chiffres. Donc, Alors, 539 fois par jour, c'est ce que Jésus a dit. 539 fois par jour. Une journée à combien d'heures? Si vous divisez 539 à 24, ça fait combien? Vous en avez fait le calcul. Ça fait combien? 22 fois par heure. C'est-à-dire une fois toutes les 2 minutes et demie. C'est-à-dire si quelqu'un te fait du mal une fois toutes les 2 minutes et demie, là, par jour, la Bible dit pardonne autant qu'il a fait du mal. Donc maintenant, Dieu le demande à un homme de le faire. Et si c'était Dieu lui-même? Si c'était Dieu lui-même? Si Dieu te le demande? Si c'était Dieu lui-même? D'accord? Ok? Donc ça, c'est le processus. Maintenant, suivez-moi. Je vais plus loin. Amen. Je vais plus loin. Alléluia. Maintenant, regardez-moi. Maintenant, écoutez. Comment donc je fais pour revêtir l'homme nouveau afin de marcher dans la justice et ne pas succomber au péché, n'est-ce pas, le premier virage venu? Comment je démontre donc la manifestation de l'homme nouveau? Première, sept choses à faire pour revêtir l'homme nouveau. Sept choses à faire. Premièrement, si je suis né de nouveau, la première chose que je dois apprendre à faire, c'est premièrement la lecture de la parole. La lecture de la parole. La lecture de la parole. Éphésiens 4, verset 24 dit, revêtis l'homme nouveau créé selon une justice et une sainteté de Dieu qui produit la vérité. Et dans la version amplifiée d'Éphésiens 4, verset 24, il a dit, et révèle la nouvelle nature créée selon l'image de Dieu, selon sa vraie justice et sainteté. Pour y arriver, il faut premièrement la lecture et la méditation de la parole. Matthieu 4, verset 4, 1 Pierre 2, verset 2. Matthieu 4, verset 4, 1 Pierre 2, verset 2. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Qui parmi vous a eu un petit déjeuner ce matin? Qui lève la main? D'accord? Très bien. Qui va manger à midi parmi vous ici? Quels sont ceux qui mangeront encore le soir? Certains d'entre vous ont 3, d'autres 5 repas par jour. D'accord? Pour nourrir sérieusement votre chair, votre corps. Mais combien de personnes parmi vous prennent le temps de nourrir votre homme intérieur, sachant que votre destinée est influencée de l'intérieur vers l'extérieur? On ne donne plus de temps à la parole qu'à la nourriture. Donc, l'un des signes que je suis né de nouveau, c'est le désir que j'ai de lire la Bible. Certains d'entre nous ne lisent pas la Bible. On lit la Bible le samedi soir, ou on lit la Bible le dimanche matin, et après on classe la Bible. Quand j'arrive souvent chez mes filles, je dis, donne-moi ta Bible, on va prier. Souvent, c'est juste pour voir ce qu'il y a sur la Bible. C'est souvent, pasteur, attends, on va essuyer. Donc, quand on dit déjà qu'on va essuyer la Bible, c'est pour vous dire que la Bible, là, on ne la touche pas régulièrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous voyez les enfants de Dieu qui disent, ah, en tous les cas, quand ils dorment, ils entendent un bruit, ils mettent la Bible sous l'oreiller. Non, c'est pas sous l'oreiller qu'on met la Bible. Il faut mettre la Bible à l'intérieur. Il faut avaler le rouleau. C'est très important. Deuxième chose, la prière. Dis après moi, je dois prier. Encore, je dois prier. C'est pour ça que quand je vous convoque pour la prière, venez à la prière. Je dois prier. La prière, c'est l'instrument par, voyez, le moment, c'est qui nous permet d'être en communion avec le ciel, avec notre Créateur. C'est très important. Maintenant, regardez-moi ici. Reviens, jeune homme. Regarde. Il offre, la Bible dit qu'on offre, il offre son corps comme un sacrifice vivant. D'accord? Dans l'Ancien Testament, ça va pour chacun d'entre nous, vous êtes là. Dans l'Ancien Testament, quand on prenait un animal, l'holocauste, on le mettait sur l'autel, faire des efforts, faire ça. On mettait sur l'autel, regardez, on attachait l'animal de corde et on le brûlait vivant. On ne le tuait pas. On mettait vivant. Donc le feu venait du bas et consumait le sacrifice. Maintenant, vous prenez un être humain. Vous le mettez sur l'autel du sacrifice et vous mettez le feu. Quelle est sa réaction? Il va fuir. Même s'il veut bien, quand le feu arrive, il fuit. Donc, qu'est-ce qui maintient ton corps sur l'autel? C'est la prière. Donc, la prière, c'est les cordes qui relient ton corps sur le sacrifice, sur l'autel de la consécration. Donc, si tu ne pries pas, le corps ne reste pas sur l'autel. C'est pourquoi certains d'entre vous, vos corps sont trop agités. Dès que tu vois que ta chair bouge trop, il y a trop d'agitation. Parce que tu pries pas. Tu pries pas. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il y a des femmes nées de nouveau qui sont agitées. Dès qu'elles vont au nom, parce que vous être jusque dans les oreilles, baba. Qu'est-ce qu'il y a? Reste calme! Reste calme! Qu'est-ce qui te prend? Reste calme! Je dis la vérité, n'est-ce pas? Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Non, il faut prier, ma soeur, il faut prier, mon frère, il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Dis encore à ton voisin, il faut prier. Alors, le problème de beaucoup d'entre nous, voici comment on prie. Oh Seigneur, je te rends grâce pour la journée, je te remets ma voiture, je te remets mes enfants, au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est pas prier. Non. Bien aimé, quand je dis prier, laissez le parfum de Dieu imbiber votre chambre. Parlez à Dieu jusqu'à ce que vous rendez compte que vous êtes couvert de sa présence. Il est là dans votre chambre. C'est-à-dire, vous prenez du temps de qualité. Le temps de qualité. Même si vous n'avez pas le temps de prendre le temps de qualité avec votre femme, vos autres enfants, votre mari, prenez-le quand même avec Dieu. Et il va vous enseigner à prendre le temps de qualité avec les gens. Ne soyez pas toujours pressés. Soyez pas pressés. Prenez le temps de qualité. Vous savez, j'avais prié jusqu'à ce que quand il faut cesser la prière, vous avez mal. Parce que vous vouliez rester. C'est différent de ceux qui prient et ils regardent le monde pour être sûr qu'ils ont atteint les 30 minutes qu'ils avaient dit. Et quand les 30 minutes arrivent, j'ai prié 30 minutes. Non, quand vous avez touché l'éternité, quand vous êtes en contact avec votre Dieu, les aiguilles du monde s'arrêtent. Vous êtes entré dans l'éternité, dans la prière. C'est ça, prier. Priez, devenez fort. Car la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Donc si tu ne pries pas, je te garantis que ta chair aura tendance à se ressusciter, à connaître la raison. Le vieil homme va revenir. C'est la prière qui le maintient sur la croix. Pas la foi. Dis à ton voisin, il faut prier. S'il te plaît, dis-le à ton voisin, il faut prier. Je n'arrive pas à comprendre comment les enfants de Dieu aiment la bénédiction, mais ils n'aiment pas la prière. La prière est la clé de la bénédiction. Il faut aimer la prière. Prier. Ensuite, obéir. Dis à ton voisin, obéis. D'accord? L'obéissance. Jacques 1, verset 22. Mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter, mais en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. D'accord? D'accord, vous voyez? Il ne faut pas vous borner à écouter la parole. Ça veut dire quoi? Quand je viens à l'église et que j'écoute la parole, je l'ai écoutée. D'accord? La Bible dit, je ne dois pas me borner par mes faux raisonnements. Ça veut dire que quand Dieu a parlé, je dois obéir. Mais vous savez que vous y êtes? Hello? Ça va? On est ensemble? Suivez-moi bien. Chaque fois que la parole est injectée dans votre esprit et que votre esprit communique à l'âme, l'âme rencontre les raisonnements que vous avez avant, que vous aviez. Ces raisonnements viennent s'opposer à la parole. Et souvent, elles sont tellement fortes qu'on les appelle forteresses. Elles se lèvent contre la connaissance de Dieu. Elles bloquent Dieu en disant, nous avons pris possession de cette personne. Quel que soit ce qu'on dit, ça ne passe pas. Et vous pouvez adorer Dieu, mais avoir des forteresses dans le domaine. Il y a des gens, ils adorent Dieu, mais quand on parle dans un forteresse établie. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas en entendre parler. Le pardon, non. Moi, je pardonnerai. Quoi à moi? Non. C'est des personnes, il ne faut pas vous amuser. Car ils, non, ils voient, souvent, c'est la colère qui est une forteresse dans leur âme. Et souvent, c'est avec l'assistance d'un démon qui est placé dans la chair et qui soufflait dans l'âme pour dire à l'âme, reste là où tu es. Vous voyez? Donc, cette personne, elles sont souvent fières d'elle. Elles peuvent l'être. Et puis, soudainement, l'humeur change au cas de vlam. C'est-à-dire, la pluie, même avant d'arriver, annonce. Mais eux n'annoncent pas. Il vit au cas de tout. Pouf, il a déjà changé. Tu te dis, mais est-ce que c'est la même personne? Souvent, c'est un signe d'une âme qui est malade et qui est agitée, qui est pressée par la puissance occulte pour que cette âme ne fasse pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, si tu te mets en colère, ne dors pas sur ta colère. Je ne me souviens pas, je vous rappelle, sur cette terre, une seule personne qui peut dire, et devant, je parle au monde entier, que le révérend Raoul Wafon a quelque chose dans son cœur contre moi. Personne. J'ai dit, personne. Et Dieu seul sait le nombre d'attaques que j'ai subies. Des pasteurs complotés, envoyer des gendarmes, m'arrêter dans un complot pour me faire assassiner. J'ai pardonné. Qu'est-ce que je n'ai pas pardonné? Qu'est-ce que je n'ai pas vu sous le soleil? Bien aimé. Mais ce n'est pas parce que je veux, mais je suis obligé. Ma Bible me commande de pardonner. Je dois obéir. Je n'obéis pas simplement quand il faut être béni matériellement. J'obéis parce que je dois plaire à celui qui m'a appelé. Et souvent les gens disent, oh je ne comprends pas, pasteur, pourquoi mes affaires sont bloquées. Comment est-ce que tu veux que le ciel s'ouvre sur toi alors que ton cœur est fermé sur quelqu'un? Et là, quatrième point qui va donner à ton âme, à ton aide de revêtir l'homme nouveau, c'est la louange. Oh, dis après moi la louange. Oh, encore la louange. Alléluia, encore la louange. Éphésiens 5, verset 18 à 19. Amen. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. Les buveurs de vin, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Je ne suis pas en train d'entrer dans la doctrine, mais j'ai dit, ne vous enivrez pas de vin. Faut pas qu'on arrive chez toi, tu es sous, tu es if, tu es die. Faut pas boire de vin jusqu'à ce niveau. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Comment est-ce que vous voyez un gars rempli de l'esprit? Quand vous le croisez sur le chemin, comment tu vas? Super bien. Amen. Il dégage la joie, il est rempli de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il s'entretient par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, célébrant de tout son cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà dansé pour le Seigneur un jour? Eh bien, la louange, c'est pas « Il est bon, il va faire du bien, voilà. » Enfin, il y a des gens qui sont, même dans la louange, ils essaient un peu de se maintenir. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Et j'ai souvent vu comment la chair aime les galons. Hein. Tu vois, je suis là, je regarde. Hein. Il y a des gens, quand ils font la louange, ils sont là un peu de temps en temps. Oh, il est bon. Vous voyez? Donc, c'est pas qu'il loue Dieu, quoi. Il se loue lui-même. Il est tellement conscient de lui-même. C'est pas Dieu qui loue, quoi. Il loue lui-même. Est-ce que vous êtes avec? Donc, la louange, c'est je m'oublie et je me focalise vers lui. Je ne danse pas pour ce que je suis, mais je danse pour... Ah! Alléluia! Pour ce que Jésus est. C'est ainsi que David, qui était roi, il était roi. Et donc, quand l'arche a quitté la maison des hommes pour monter à la cité de David, David a commencé à danser. Et la Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. Amen. Sans choquant. C'est-à-dire qu'il était dedans là. Comment? De toutes ses forces. Ça veut dire que David devait avoir des trucs de danse. La Bible dit que la fille de Michal, la fille de Saül, a regardé David. Elle l'a méprisé. Sa femme l'a méprisé. Vous dites, c'est quel roi qui fait honte à la famille? Comment est-ce qu'il peut danser comme ça devant le peuple? Mais elle était fille de Saül. Elle était fille de Saül. Si vous êtes mes fils, il y a des choses que vous faites. Saül, c'est l'apogée du ministère dans la chair. Alors que David, c'était la manifestation du ministère dans l'esprit, dans l'ancienne alliance. Il a dansé devant Dieu. Donc il y a la louange. Amen. Ensuite, l'adoration. Alléluia. L'adoration dit, j'adorerai l'Éternel de tout mon cœur. Jean 4, verset 23. Il est écrit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Une autre version dit demande. Ça veut dire que lui-même, il a une prière. Et il dit, je veux des adorateurs. Ouh là 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 là. Je veux. Il recherche des adorateurs. Quelle merveille que d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? Se focaliser sur sa personne. Là, on peut ne plus bouger. Calme. Souvent, c'est une dimension de contemplation. Et les larmes commencent à ruisseler sur les joues. On réalise qu'il a payé le prix pour nous, que nous étions indignes. Mais il est mort parce qu'il nous a aimés. Et qu'en retour, il n'y a rien de plus précieux qu'on puisse lui donner. Que même notre corps, ce n'est pas suffisant. On pense à comment est-ce qu'il nous a fait échapper à des crises cardiaques. Comment il nous a fait échapper de l'humiliation. Comment il nous a délivré des plans de la honte. Comment est-ce qu'il est en train de nous positionner. Souvent, on pense à où on est assis dans la vie. Et on se dit, ouh là 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 là. Oh, si je suis arrivé, il n'y a que Jésus seul. Donc, l'adoration te permet de penser aux merveilles et aux bontés de Dieu. Et quand tu es dans l'adoration, la présence de Dieu descend dans ta présence. Pourquoi? Parce que Dieu aime les adorateurs. Il recherche les adorateurs. N'oubliez pas que l'adoration nous donne d'avoir, de substituer Lucifer à la place qu'il occupait dans le temps avant qu'il ne soit déchu. C'est un poste vide devant le trône de Dieu. Le seul ministère devant le trône de Dieu qui est vide, c'est celui de l'adoration. Donc c'est là, il attend que quelqu'un d'autre vienne occuper. Il cherche les adorateurs. Alléluia. Donc, on va peut-être tout abandonner, mais quand on ira dans les cieux, on va rejoindre les 24 vieillards qui jettent leur couronne devant Dieu et qui l'adorent. C'est pour ça que tu ne vas pas aller au ciel jeune. C'est pour ça qu'on doit aller au ciel un peu vieux. Parce que là, on retrouve les anciens vieillards. Dans notre vieillesse, on continue d'être tout jeune dans l'esprit pour adorer notre Dieu. Je déclare sur ta vie, par la puissance de Dieu, que tu ne mourras pas avant ton heure. Que tous les décrets de mort prématurés contre sa vie, ta vie sont réduits à néant au nom puissant de Jésus. Dis encore bon amen.
Amen.
Le sixième point, le jeûne. Ça, beaucoup de personnes n'aiment pas. Beaucoup de personnes n'aiment pas. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Si tous les gens qui ont déjà eu un peu et qui peuvent manger à midi, n'est-ce pas ce qu'ils veulent? Hamburger, qui peut prendre du caviar, qui peut prendre du foie gras, qui peut manger ce qu'ils veulent à table. Souvent c'est du, mais il y a d'autres qui aiment bien les mâchoirons fumés, les poissons secs, les viandes boucanées. D'accord? Il y a même des appétits quand vous les avez, c'est une influence diabolique. Comment vous pouvez aimer les choses qui ont pourri? Donc on reparle de ça, c'est pas aujourd'hui. Donc, je dis le jeûne. Le jeûne. Vous savez, je vais vous dire une chose. On ne peut pas pourrir quelque chose et vous aimer manger ça. Bon. Ah. Amen. Matthieu 6, verset 6. Lorsque vous jeûnez. Matthieu 6, verset 6. Lorsque vous jeûnez. D'accord? Donc Jésus dit, il faut jeûner. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Alors, je vais vous étonner. Vous savez que beaucoup de personnes pensent que le jeûne enlève les épreuves. J'ai entendu des gens me dire, pasteur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, alors que je sors d'un jeûne. Non. Le jeûne n'enlève pas l'épreuve, mais le jeûne attire les épreuves. Chaque fois que vous jeûnez, vous attirez de nouvelles épreuves. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, vous prenez la force. C'est quand Jésus a terminé son jeûne, 40 jours et 40 nuits, que le diable s'est présenté. Mais il ne s'est pas présenté avant. Donc, ayant terminé son jeûne, l'épreuve a été permise par le ciel. Donc, le jeûne, c'est un moment où vous prenez la force de Dieu à l'intérieur. Vous voyez, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, que nous devons être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Parce que, vous voyez, la puissance qui agit en nous, elle agit en nous. D'accord? La puissance agit où? Elle agit où? C'est pour ça que le diable va tout faire pour déstabiliser ton intérieur. Parce qu'il sait que s'il t'a touché de l'intérieur, il t'a fragilisé. Vous voyez des gens qui viennent à l'église, ils n'ont plus l'ardeur, ils sont refroidis. Ils sont tièdes. Il y a quelque chose qui ne va plus. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à toucher les dieux. La puissance qui agit à nous. Donc le jeûne participe à ta transformation intérieure et te rend fort. Te rend fort. Dis à ta main droite, dis je suis fort dans le Seigneur. Et je jeûnerai quand le Saint-Esprit me le demandera. Et même quand il ne me demandera pas, je jeûnerai quand même. Vous voyez, parce que si je n'ajoute pas ça, d'autres vont venir me dire, parce que le Saint-Esprit ne m'a pas demandé, donc je ne jeûne pas. Vous voyez, donc, même s'il n'a pas demandé, tu jeûnes quand même. D'accord? C'est important. Maintenant, le septième point, d'accord? Tout ça doit être couronné par le septième point, la proclamation de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le combat spirituel, le vrai combat spirituel, c'est la déclaration de la parole. Comment est-ce que je proclame la parole? Quand David a affronté Goliath, qu'est-ce que Goliath a dit? Il dit, il a maudit David par ses dieux. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que David a fait? David dit, hé, Goliath, vous voyez, le combat a eu lieu dans les airs avant d'avoir lieu sur la terre. Vous ne pouvez pas remporter un combat sur la terre si vous ne l'avez pas remporté dans les airs, dans le monde surnaturel. Et dit, tu viens contre moi avec la lance de javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il dit, aujourd'hui, je trancherai ta tête. N'est-ce pas? Est-ce que David avait une épée? Oh, s'il te plaît, réponds-moi. Je vais te montrer comment tu feras des exploits. S'il te plaît, réponds-moi, est-ce que David avait une épée? Laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'avoir une arme en dehors de la parole. Il a dit, je trancherai ta tête, et il avait déjà tranché la tête par la parole qu'il avait envoyée. Même s'il n'avait pas d'épée, Dieu a donné l'épée de son ennemi pour que la tête de Goliath soit tranchée par la propre épée qu'il a apportée. Je déclare que tes ennemis seront engloutis par les pièges qu'ils ont tendus contre toi au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas d'eux. On n'a pas dit de ton oreiller. Mais de quoi? On n'a pas dit de ton armoire, de tes noms. On a dit d'où? De ta bouche. Pas au-dessus de ton lit, mais de ta bouche. Chaque fois que tu verras la Bible chez toi, demande-toi la quantité de cette Bible que tu as dans ta bouche. Combien tu peux parler la parole? Vous voyez? Et la Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi, exprimé dans cette parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si je crois, je dois parler. Dis, je parlerai. Encore, je parlerai. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Dis, je parlerai. Je me rappelle une dame a osé vouloir occulter mes jours sur terre. Elle est allée faire une incantation démoniaque. Et j'étais couché à l'hôtel quand la vision m'a été montrée. Faites attention aux gens qui ont quatre yeux, même si vous ne voyez que deux. Est-ce que vous me comprenez? Quand la Bible dit que Dieu illumine les yeux de notre homme intérieur, donc au-delà des yeux naturels, des yeux de Dieu, je peux voir au-delà de ta personne. Je peux te regarder et voir plus loin que ta tête. Et comprendre ce qui se passe derrière toi. Car quelqu'un a quatre yeux, on fait attention avec lui. Dis à ton voisin, j'ai quatre yeux. Je vois au-delà du naturel. Donc j'étais couché à l'hôtel quand j'ai eu la vision qui m'a montré cela. Je me suis levé, j'ai commencé à rêver. Pourquoi? Je ne voulais pas parler sans être sûr que mon homme était fort. Quand tu parles en langue, tu te défies toi-même. Tu donnes à ton homme intérieur de faire les échauffements d'abord, avant que... Et j'ai senti, il m'a dit, non, je suis prêt maintenant. Je suis prêt maintenant. C'est pas comme les gens qui... Oh, non, 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 c'est pas beaucoup de paroles. Quand ton homme intérieur est prêt, une seule phrase. Une seule phrase. J'ai dit, maintenant... Toi qui as creusé ce piège contre moi, tu retombes dedans toi-même. La mort qui m'était programmée est tienne maintenant au nom suprême de Jésus. C'était terminé. Deux semaines après, les gens l'apportaient pour l'amener à Williamsville. C'était la fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire. Bien aimé, dans le combat spirituel, il n'y a pas d'émotion. Soit c'est toi, soit c'est la personne. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est toi, soit c'est la personne. Mais je déclare que tes ennemis mourront à ta place. Celui qui voudra ta peau mourra à ta place. Hier soir, une de mes filles m'appelle et me dit, Daddy, excuse-moi de te déranger. Un camion vient de percuter ma voiture. Et nous étions à l'intérieur, peut-être je crois quatre passagers. La voiture a été totalement endommagée, mais on n'a pas été touché. Mais les paroles qui sont relâchées dans l'atmosphère ont déprogrammé les accidents. Même s'ils arrivent, le ciel est en train de te montrer la dimension de la protection. Tu ne mourras pas avant ton heure. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton heure. Personne ne pourra. Écoute bien. Dis aux gens de ton village. N'aie pas peur d'aller au village. Dis à ces gars de ton village qui font mourir tout le monde. Que s'ils osent avec toi, ils vont mourir. N'aie pas peur. Dis-le. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, dis-le. Pour comme la parole de l'Éternel. Il est écrit, ne touche pas à mon oint. Pourquoi tu me regardes? Comme un chien qui regarde la télé. Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Tape ton cœur et dis, je dois comprendre cette parole. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me comprends? Maintenant, suivez-moi bien. Vous voyez, nous sommes des tueurs des géants. Dis, je suis un tueur des géants. Encore, je suis un tueur des géants. Satan n'aura jamais raison de moi. Les sorciers de mon village et mes ennemis n'auront jamais raison de moi. Car la main de Dieu est sur ma vie et ma destinée. Même si je passe dans le feu, je ne consumerai point. Car la main de Dieu est sur ma vie et la parole de Dieu
habite en moi.
Gonflez-moi encore notre ballon. Regardez. Regardez. Un enfant de Dieu né de nouveau, qui n'a pas la parole, c'est un tonneau vide. Vous avez entendu les gens qui font trop de bruit? Ils sont à l'église et font toujours beaucoup de bruit. Mais ils sont vides à l'intérieur. Est-ce que je peux avoir un autre ballon? Merci. Regardez, la première réaction, dès qu'une petite épreuve arrive, parce qu'ils sont vides, à l'instant, ils explosent. Pourquoi ils explosent? Parce qu'il n'y a pas le dépôt de la parole en vous. Quand tu as le dépôt de la parole, tu es invulnérable aux attaques. Quel que soit ce qui se lève contre ta vie, tu ne peux pas échouer. Maintenant, voilà quelqu'un d'autre, rempli de la parole. Il peut avoir une apparence toute petite. Et ceux-là, qui sont vides, ils font beaucoup de bruit. Ils pensent que leur grandeur, c'est leur maison et leur voiture, leur boucle d'oreille, leur sac. Ils font beaucoup de bruit, mais ils sont vides. Alors que les autres, ils prennent une apparence faible, mais ils sont consistants de l'intérieur. Ils ont à l'apparence, peut-être qu'ils n'attirent pas le regard, mais c'est des terroristes antiterroristes, capables de renverser des choses contre le camp de l'ennemi. Quand ils ouvrent la bouche, le monde tremble. Donc quand ils passent par l'épreuve du feu, ils se mettent sur le feu. Le feu brûle n'importe comment, ils ne sentent pas l'épreuve. Parce qu'à l'intérieur d'eux, vous voyez, on peut le remettre, il ne brûle pas, il n'explose pas. Mais si vous prenez celui-là, qui est vide, vous le mettez, quelques temps après, il explose. Pourquoi? Écoutez, ce n'est pas la prestidigitation. C'est une démonstration d'une formule chimique. On doit avoir de l'intelligence quand on enseigne. Donc vous avez la parole en vous. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas vous atteindre. Non, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alors Jésus-même, notre maître, a été crucifié. Mais la croix ne l'a pas retenu. T'as pas compris. J'ai dit Jésus, notre maître, a été crucifié. Mais la croix ne l'a pas retenu. Même la mort. 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 Le troisième jour, il est sorti triomphalement de la mort. Et quand il a vu Thomas, il dit, regardez mes marques. Regardez les marques. Vous voyez, l'épreuve te laisse des marques, mais ne te rase pas. Ce sont des marques. Mais les marques ne changent pas ton identité. Les marques ne changent pas ta personne. C'est peut-être une cicatrice indélébile, mais c'est un témoignage de ta victoire. Est-ce que vous me comprenez? C'est un témoignage. Les autres qui sont passés par là avant toi sont morts. Mais parce que Dieu était avec toi. Parce que Dieu était de son côté. Parce que la parole était en toi. Jeunes gens, parce que la parole habitait en toi. Les marques sont restées. Mais tu n'es pas parti. Ne passe pas ton temps à penser aux marques. Passe plutôt ton temps à penser au fait que tu as trouvé de l'épreuve. Jésus a montré ses marques, n'est-ce pas, à ses disciples. Il a dit, Thomas, touche mon flanc. Alors, bien-aimé, est-ce que je peux voir la main des tueurs des géants dans la salle? Répète après moi, je suis un tueur des géants. Je réalise des exploits exceptionnels. Je suis né pour montrer la gloire de Dieu à ma génération. La puissance de Dieu est mon partage. Je règne sur la terre. Mon homme intérieur est fort, puissamment ancré dans la parole. Quand je parle, les choses se réalisent. Quand je décrète, ça s'accomplit. Car les anges de Dieu veillent sur ma parole, relâchés avec foi pour accomplir ses desseins. Au nom de Jésus, amen. 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 Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Certains d'entre nous, hier nuit, vers 2h du matin, je me parlais d'une école que je dois faire en 2015. Écoutez-moi bien. Je vais vous enseigner comment tu utilises la parole. Sans l'épée physique, la parole. Et tu crées un emploi. La parole. Tu amènes de l'argent. La parole. Une femme. La parole. Un mari. La parole. Une promotion. Juste la parole. Rien d'autre. Est-ce que ça va? On est longtemps resté dans la religion. Dis-moi, je suis dans la distinction. Pas dans la religion. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Tape ton ventre comme ça, tape ton ventre comme ça. Les sources d'eau vive habitent au-dedans de toi. Amen. La grâce de Dieu. L'homme nouveau, créé selon Dieu et à l'intérieur. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, regardez. Asseyez-vous calmement. Gardez ça. Voyez, la Bible dit le juste vivant par la foi. Vous vous rappelez? Le juste vivant par quoi? Très bien. Vous savez? La foi vient du cœur. Romains 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc je crois avec quoi? Mon cœur ou ma tête? Répondez-moi, je crois avec mon cœur ou ma tête? Est-ce qu'il y a des tueurs des géants dans cette salle? Je crois avec quoi? Mon cœur ou ma tête? Donc je marche par la foi, d'accord? Et non par la vue. Et ma Bible va plus loin, dans 2 Corinthiens 5, verset 16, on ne connaît plus personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Quand tu es né de nouveau, on ne te connaît plus selon la chair. Celui qui était là, c'est exhumao. L'homme, le vieil homme, est mort. Mais l'homme nouveau est ressuscité. Donc, personne ne peut venir dire que l'homme qui vit dans ce corps-là doit quelque chose à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort. D'accord? Est-ce que vous êtes là?
Amen.
Les gens m'ont dit, oh oui, mais les malédictions ancestrales, ça n'a pas de réussite. Mais qui était maudit? C'est l'ancien homme qui était maudit. C'est pas le nouveau. Le nouveau est né de Dieu. Donc il n'a aucune malédiction rattachée à sa personne. C'est le vieil homme. Allez demander aux juristes qui sont dans la salle. Si j'habite une maison et que je dois de l'argent à quelqu'un et que je ne suis plus dans la maison, celui qui le remplace dans la maison n'est pas celui qui doit. Car la maison ne doit pas. C'est la personne qui est dedans qui a contracté la dette. C'est lui qui a pris tout ce que ton père a donné. Par le sang, l'héritage, le bagage que tu dois. Le diable réclamait à l'homme, au vieil homme. Mais c'est pas toi, c'est pas l'homme nouveau. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire, oh, comme ton père échoue, tu vas échouer. Non, cet homme qui devait échouer est mort. Il a été crucifié. D'accord? Il ne vit plus. C'est l'homme nouveau qui vit. Alors les gens vont venir, oh, des séminaires, comment reconnaître les 12 démons qui t'a, comment faire ci? Délivrance, délivrance. Chaque jour. Comment un enfant de Dieu peut passer chaque jour de sa vie dans la délivrance? Si ce n'est pas quelqu'un de possédé. Bien-aimé, écoutez, tous les jours dans ta délivrance, pourquoi? Pourquoi? Il faut un jour que tu connaisses Dieu et que tu jouisses des délices de Dieu. Donc les enfants de Dieu ont commencé à vivre. Même aller à la place de l'ONU en péché. Manger dans des bons restaurants sur un péché. S'habiller normalement sur un péché. Pourquoi? Terrorisé par les mensonges de Satan. Pourquoi? L'ignorance. Oh, vous partez où? Au temple de la foi. Oh, oh, est-ce qu'on fait les délivrances là-bas? Hey, on les voit les messages à la télé. Ils ne font pas de délivrance. Bien-aimés, allez dire à ces menteurs. Allez dire à ces renards. Allez leur dire que quand vous avez mis le pied au temple de la foi, le pasteur n'a pas eu besoin de prier. Rien que le fait que vous avez posé les pieds dans cet endroit, les démons ont reconnu que vous êtes entré dans une autre couverture. Une autre couverture. Dites-moi, bien-aimé, dites-moi, quelle est la double portion que Élie a donnée à Élisée? Quand Élie monte, il dit, père, père, chat de ta cavalerie, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il dit? Donc, quand il prend la double portion, qu'est-ce qu'il hérite d'Élie? On a dit l'ancien, n'est-ce pas? Mais en même temps, il prend le bagage spirituel qui accompagnait Élie. C'est pour ça que quand Géasi tremble, il dit, Géasi, que Dieu ouvre tes yeux, vois ceux qui sont avec nous. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chars. Pourquoi? Parce qu'il avait pris ça du manteau d'Élie. Donc les chars et l'armée qui étaient avec Élie ont commencé à se mettre à son service. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était à son service. Il dit, Géasi, ouvre les yeux. Est-ce que Géasi avait besoin de faire une prière spéciale pour être protégé par les chars? Quand vous lisez la Bible dit, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Donc, aussi longtemps qu'il était collé, vous me comprenez, à Élisée, la cavalerie qu'il y avait le protégeait. Donc, quand vous êtes spirituellement connecté à quelqu'un qui porte une notion avant le vent de sa mère, C'est pour ça que certains d'entre vous rêvent la nuit en disant, j'ai vu le pasteur, il est venu, il a dit une parole, les démons sont tombés. C'est normal. Parce que vous entrez sur une protection. Est-ce que vous me comprenez? On reviendra dessus. Ça, c'est la vraie marche par la foi. Ce n'est pas par la vue. La vue, c'est la tête. La foi, c'est le cœur. La tête, c'est le naturel. Le cœur, c'est le surnaturel. Quels sont ceux qui veulent marcher par la foi? Vous marchez dans le surnaturel. La tête se connecte au vieil homme. Le cœur se connecte à l'homme nouveau. Parce que la tête ne comprend pas comment l'homme nouveau est arrivé. Mais le cœur comprend. Les choses de Dieu ne sont pas compréhensibles par la tête. Quand la tête et le cœur sont en désaccord, que faire? Il faut trancher la tête. Vous n'avez pas compris. Vous savez pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a été tué avant que Jésus ne meure? Vous savez pourquoi? Il était prophète de l'Ancien Testament. Et il ne pouvait pas mourir avant que Jésus n'aille à la croix. C'est pour ça qu'il est mort avant. Et avant sa mort, bien qu'il ait révélé par l'Esprit que Jésus était le Fils de Dieu, il a commencé à douter pour demander si c'était vraiment lui qui devait venir. Pourquoi? Il montrait le vacillement de la loi, qui n'arrive pas à interpréter et à comprendre les mystères de Dieu. C'est pour ça que sa tête a été tranchée, pour montrer que dorénavant, dans la grâce, le fonctionnement de la tête est limité et qu'on doit connecter avec Dieu par le cœur. Vous voulez que je parle ce matin? C'est pour ça que quand Jésus-Christ s'en va chez une prostituée et qu'il vient casser le vase de grand prix à ses pieds, le parfum, et les disciples disent, non, pourquoi il fait ça? Jésus dit, laissez faire. Elle le fait pour ma sépulture. On arrive à une dimension où une ex-prostituée comprend les choses de Dieu mieux que les sacrificateurs. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, puisque nous avons parlé du tabernacle, dans le lieu saint, il y avait des parfums, l'autel de parfums, qui montaient tous les jours et qui embaumaient le lieu très saint pendant 364 jours. Et le 365e jour, le sacrificateur entrait avec l'offrande. Mais Jésus s'apprêtait à entrer dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Mais le même principe devait être respecté. L'autel, l'odeur de parfum devait précéder avant que le corps ne soit livré. Aucun sacrificateur ne l'avait compris. Mais une prostituée, poussée par l'esprit, dans son cœur, a saisi la parole et a cassé le parfum. Jésus dit non, elle le fait pour mon corps. Pourquoi? Parce qu'il était le sacrificateur qui ouvrait le voile pour que tout le monde ait accès à Dieu. Donc, aujourd'hui, ce ne sont plus les informations, c'est la révélation. Je peux avoir une révélation sans information. Dans la rue, on n'enseigne pas la Bible. Mais dans le royaume, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. La prostituée n'avait pas fait les cours bibliques, mais elle a eu accès au Saint-Esprit. C'est pourquoi, écoutez, j'ai vu des docteurs, 4 doctorats en théologie, agrégés en théologie. Quand j'ouvre ma Bible, je commence à parler et ça saigne. Ils viennent me demander, donne-nous des cours privés. Parce que la révélation surpasse l'information. Vous me comprenez? Si après moi, révélation. Encore révélation. C'est par l'esprit qu'on a la révélation. Alors que ceux qui n'ont pas la révélation raisonnent. Comment vous pensez qu'un homme de Dieu peut être autant riche? Comment vous imaginez que l'argent est venu d'où? C'est normal. C'est l'homme naturel. Il raisonne. Mais celui qui est né de l'esprit, il souffle comme le vent. On entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Il a la compréhension. Il ne raisonne pas, mais il comprend. L'homme naturel questionne. L'homme surnaturel applique la sagesse. C'est pour ça que Abraham reçoit la promesse et c'est à l'âge de 100 ans. Quand son corps est arrivé à l'usure totale et que sa forme est monoposée, que maintenant la puissance de Dieu agit au travers de ces hommes faibles, pour démontrer que quand ton corps arrive à la limite, et même quand le naturel dit c'est impossible, la parole de Dieu dit c'est maintenant que je commence à agir. Et 2 Corinthiens 4, verset 18 dit, les choses qui sont visibles sont passagères, mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. Je veux dire à quelqu'un ici, regarde ta maison, fais une photo. Regarde tes habits, fais une photo. Regarde ta position, fais une photo. Regarde ton lieu de service, fais une photo. Je n'ai pas besoin de te dire que l'onction de Dieu est sur moi. Tu le sais. Je te garantis que d'ici 3 ans, tu vas recaler les photos, tu ne reconnaîtras pas. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit d'ici 3 ans, tu vas regarder les photos, mais tu ne reconnaîtras pas. Parce que quelque chose est en train de se passer. Les choses changent. Dis à ton voisin, ça change. Dis à ton voisin, ça change. Dis encore à ton voisin, ça change. Alléluia. Les choses visibles sont passagères. Ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est vrai. Est-ce que ça va? Combien il y a dans ton compte bancaire? Tu me le diras après. Si ton pasteur demande combien il y a dans ton compte, c'est ce que tu dois dire. D'accord? Mais tu gardes l'information pour toi. Mais je vais te dire une chose. Ce que ton compte te montre n'a rien à voir avec la vérité. Ton compte bancaire ment à ton sujet. Parce que Dieu dit qu'il t'a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ton compte bancaire est trop petit pour contenir ta richesse. Il ne contient qu'une portion de ce que tu as. Si c'est compliqué, appelle le ciel. Demande qu'on puisse approvisionner ton compte. Tu es plus riche que ton compte ne le montre. Je déclare sur ta vie que ces paroles arrivent à réalisation par la puissance du Très-Haut. Au nom suprême de Jésus. De l'intérieur, j'ai dit de l'intérieur. Il est écrit, bien-aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici ce matin, quelle que soit ta position, par le Saint-Esprit, j'annonce une nouvelle dimension. Au nom de... Au nom de... J'arrache, je déracine et je jette tout ce qui n'est pas de Dieu au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. N'acclame pas pour le Seigneur, acclame d'abord pour toi-même.